Slate Podcast.
Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Damien est un homme de 42 ans. Il entretient avec sa maîtresse une relation passionnée et passionnante autour de pratiques qu'il définit comme des offrandes. Pour lui, c'est une manière de vivre, une façon d'aimer, une quête d'absolu. Dans cet épisode de Première et Dernière Fois, nous allons discuter ensemble de son histoire et de sa façon d'aimer aujourd'hui. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors tu m'as demandé dès le départ de nos échanges de te tutoyer. Donc je vais pas te poser la question rituelle, parce qu'on se tutoie déjà depuis un moment. Et puis on va attaquer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois ?
Ma première fois. Faudrait définir ce que c'est une première fois. Est-ce que c'est la première pénétration vaginale ? Je suis pas sûr qu'il faille mettre le curseur là-dessus. Ça, je m'en rappelle, hein, c'était le 12 juin 2000.
Tu te rappelles très bien.
Oui, c'était l'anniversaire de ma sœur et puis ma grand-mère était en fin de vie. Donc ça fait deux raisons qui font que je m'en rappelle. Mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est difficile de dire qu'est-ce que c'est vraiment une première fois. Ça commence où, une vie sexuelle ? Qu'est-ce qu'il faudrait
On va revenir plus loin. C'est quand la première fois que tu te rappelles avoir penser à du sexe, de la sexualité?
Alors ça, je le revois aussi. C'est l'école primaire. J'étais en CE2, je me rappelle, dans la cour de récré. Et c'est mes premières érections. Je me rappelle, c'est très étonnant, j'avais peut-être 8 ans. Tiens, mon sexe, il est bizarre, il se durcit. Et je croyais être le seul au monde à avoir ce truc-là, d'avoir un sexe très particulier. Et c'est aussi le moment où je me suis construit... des premiers fantasmes. C'est intéressant, j'y ai repensé, parce que quand on a 7-8 ans, on ne sait pas si on est attiré par les filles ou par les garçons, ou même par rien du tout. Mais déjà, les fantasmes de contrainte, je les avais. Ils m'apparaissaient déjà. Je me rappelle très bien que dans la cour de récré, j'avais un fantasme avec les filles. Je flashais sur les fesses des filles et j'imaginais qu'on pouvait les découper comme du jambon cuit. C'est mon fantasme que j'avais.
C'est très spécifique, mais c'est...
On peut dire que c'est un truc sadomaso, de tout petit. Et je me rappelle aussi que je m'attachais aux barreaux dans la cour de récré, et en me tenant à ces barreaux, ça me provoquait des érections, et j'avais mon copain Mathieu, qui avait 7 ans, qui me regardait, bizarre.
T'as commencé à te masturber à la même époque, ou
non,
c'était juste des érections ?
C'était juste des érections. Les masturbations, c'est plus tard, c'est 4-5 ans plus tard, c'est en 5e.
Et quand t'as commencé à te masturber, tu as été plus active, j'imagine, avec tes fantasmes. C'était beaucoup plus imagé, beaucoup plus induit de ta part. C'était comment cette phase ? Tu pensais à quoi ?
Je pense qu'à cette époque-là, je pensais aussi bien aux garçons qu'aux filles. Aux filles de ma classe. C'est facile à passer sur l'estrade, donc j'ai regardé les fesses, comme tout le monde. Mais j'avais 2-3 flashs sur un garçon, je revois aussi. Et alors, en fait, c'était pratique parce que j'étais sur un lit, une place, donc 90 cm de large. Et donc, en mettant les pieds de chaque côté, je pouvais m'auto-attacher et m'auto-faire fantasmer comme ça.
Ça a duré longtemps, cette phase de ce type de masturbation-là ?
2-3 ans, je dirais. Probablement jusqu'à l'entrée du lycée.
Pourquoi t'as arrêté ?
Parce que... Ah, c'est une bonne question. Pourquoi j'ai arrêté ça ? Parce que les garçons ne m'ont plus intéressé. Donc, je suis passé sur... des désirs de femmes. En fait, j'ai eu une vie sexuelle qui a commencé tard, à 23 ans. J'étais dans un lycée de curé avec des garçons, donc les filles, c'était presque un concept théorique sur mon lycée. Puis après, en classe prépa, pareil. Donc, je pense que les masturbations s'orientaient vers, avoir une femme avec soi, mais clairement, je savais pas quoi en faire, quoi.
T'avais pas trouvé des films pornographiques ou des magazines pour t'aider ?
Si, c'était la grande époque des cassettes VHS, je me rappelle, avec les Rocco Siffredi et Rocco disait, je vais vous faire un feu d'artifice.
Et ça marchait pas sur toi ?
Oui et non, ça marchait pas, on n'avait rien d'autre à l'époque, hein. Il n'y avait pas Internet, et... Je l'ai regardé 3-4 fois, il y avait les journaux aussi... érotique, qu'on n'osait pas acheter dans la kiosque à journaux. Alors j'avais un copain qui était plus courageux que moi, qui les ramenait, aussi bien les cassettes que les journaux.
Et donc c'est une période très masturbatoire ou même ça t'as un peu laissé tomber
Ah non, c'est une période très masturbatoire. Ouais. C'était une période très très masturbatoire. Je pouvais masturber 5-6 fois par jour. C'était
De façon mécanique ou en pensant à quelque chose?
Les deux, mais assez mécanique quand même. Souvent mécanique, surtout en journée, pour faire passer le stress. C'était un moment où les études étaient très stressantes et c'était bien, quoi.
Tu m'as dit que du coup, ta vie sexuelle, donc ce qu'on définit hein, de façon un peu cliché, comme la première fois, j'imagine la première pénétration, pénis dans vagin, est arrivée tard, à 23 ans. Comment ça s'est passé?
Je dirais que la première fellation qui est arrivée avant a plus d'impact, c'est beaucoup plus ouais. important pour moi que la première pénétration vaginale.
C'est une forme de pénétration.
Voilà.
Comment ça s'est passé?
Une fille qui avait 2 ans de plus que moi et qui était plus experte que moi et qui m'a fait découvrir ça. Et c'était génial, je me rappelle. Découvrir que les mains d'une fille peuvent passer dans mon entrejambe. Je suis resté complètement fou pendant toute une journée après ça.
C'était à la fac?
Non, c'était chez elle, à Paris.
Est-ce que tu t'es senti différent après?
Oui, je me suis senti heureux d'avoir acquis une connaissance, mais frustré de pas pouvoir expérimenter à nouveau. Avec cette fille, ça s'est terminé tout de suite. D'ailleurs, elle avait un copain. Donc j'ai commencé ma vie sexuelle avec un acte adultère. À cette époque-là, oui, j'avais le complexe de pas savoir séduire les filles. J'avais pas le mode d'emploi. C'était vraiment un souci.
Tu penses que c'est à cause de ton éducation catholique?
Je pense juste que j'avais pas le mode d'emploi, en fait.
Ouais.
Oui, j'avais le copain qui arrivait toujours à se lever toutes les nanas parce qu'il y allait en rentre dedans. Bah moi, c'était pas mon truc, et moi, j'étais plutôt un romantique, mais alors, j'écrivais des lettres d'amour, et puis ça marchait pas du tout, quoi. Je me suis pris un nombre de vents incroyables sur les lettres d'amour, donc.
T'as arrêté après?
Non, j'écris toujours des lettres d'amour, mais une fois que la relation a commencé.
Cette première fellation, est-ce que tu as pris du plaisir?
Oui.
Tu as joui?
Je me souviens plus. Je pense que, peut-être que oui. Mais je pourrais pas l'affirmer. Mais là, encore une fois, c'est pas un marqueur, le fait d'avoir éjaculé, en fait.
Non, c'est une question pour savoir, hein. C'est pour ça, tu vois, que je sépare les deux aussi.
Je vois.
Parce que pour les hommes, en l'occurrence, c'est beaucoup moins simple que ce qu'on croit. On part toujours du principe qu'une éjaculation vaut pour du plaisir, mais c'est pas évident.
Non.
Donc, je sépare toujours les deux.
Non, mon plaisir, il était visuel, il était tactile, mais pas éjaculatoire. Non. Je crois pas.
Très psychologique.
Très psychologique. Mais de toute façon, mon plaisir est de manière générale encore aujourd'hui très psychologique.
Après cette fois-là, tu t'es dit, il faut que je le refasse.
Ah oui, même avant cette fois-là, jamais.
T'étais déjà obsédée par ça, j'imagine. Comment t'as abordé après les filles? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta façon de les aborder?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que je manquais de confiance en moi. C'est à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, c'était en s'intéressant vraiment aux femmes qu'on essaie de viser, que j'ai commencé à avoir du succès. Mais ouais, je savais pas faire ça au début.
C'est normal. Enfin, voilà. Y a pas la science infuse de ça non plus. Hein. Enfin, il faut le dire aussi, il y a des choses qui s'apprennent. C'était quand ta première relation?
Ah bah c'était la première pénétration vaginale pour le coup.
D'accord.
Je suis resté un an avec cette femme et elle s'est terminée le 11 septembre 2001. C'est une date facile à retenir. Mais c'était une relation où on n'arrêtait pas de se micro-séparer, en fait.
Ouais.
On se séparait, on se mettait ensemble. C'était pas du tout une relation charnelle. C'était une relation vraiment basée sur les discussions, la culture, la politique. Voilà.
Donc c'était une relation épanouissante au niveau intellectuel, j'imagine.
Voilà. Et pas du tout au niveau charnel.
D'accord. Le sexe, c'était pas bien?
Non, même j'étais pas attiré physiquement par elle.
Là, à ce moment-là, dans cette relation, tu continuais du coup à te masturber. T'as vu des gens à côté ou pas du tout? Ou t'as mis entre parenthèses ça aussi, le temps de cette relation?
Mais à cette époque-là, je n'avais pas à voir des gens à côté. J'étais pas assez doué pour ça. Donc non, j'étais avec elle.
Et ça a augmenté ta fréquence de masturbation?
Non, mais la masturbation, elle est passée à côté. Hein. Je pense qu'à partir du moment où j'avais des rapports sexuels avec une femme, le besoin de masturber, il est passé.
Quand est-ce que les fantasmes de contrainte, que tu le fasses ou que tu le subisses, sont revenus?
Ils sont revenus sur Internet. Je me rappelle qu'il y avait un site, ça devait être vers 2005, quelque chose comme ça, d'une femme qui s'appelait Leïka, je crois qu'il y avait un maître, et elle postait sa vie sur Internet. Et moi, je lisais ça assidûment. Donc, c'est revenu avec ça.
T'as fait des recherches pour le trouver quand même? Il y a quelque chose dans ton inconscient qui a été cherché?
J'ai pas dû tomber dessus par hasard. Hein. Je me souviens d'une histoire aussi avec une fille, ça a pas duré du tout, avec qui j'avais voulu attacher. Mais avec quoi attacher? Alors à l'époque, je savais pas du tout. Du coup, j'étais allé à Carrefour et j'avais acheté des fils élastiques, vous savez, pour les enfants, pour faire la...
Pour faire de la... Pour sauter, là? Oui.
Ouais, et ben c'est pas du tout bien pour faire du BDSM.
Ça doit couper la circulation en plus. Et puis ça maintient pas beaucoup.
Et puis ça maintient pas du tout. Donc c'était une très mauvaise idée.
On peut imaginer, mais c'est important de le dire. Je pense qu'il y a des gens qui le savent pas. Et donc la lecture de ce blog a éveillé quoi chez toi? Ça a changé du coup tes fantasmes? Ou tu t'es dit que c'est quelque chose qu'il fallait que tu expérimentes plus?
Oui. C'est-à-dire que je me positionnais aussi bien du côté de cette Laïka que du côté de son maître, en fait. Donc, c'était le rapport entre les deux qui me parlait. Et ça m'évoquait les lectures que j'avais vues avant, quelques années avant, en particulier sur le rapport de possession, la découverte à deux, de l'offrande. Ça me parlait. Voilà. Ce qui me parlait moins, c'est l'aspect des douleurs.
Là, tu as commencé à faire ta culture personnelle.
Oui.
Alors, ce qu'on dit de façon générique, le BDSM.
Oui.
Quand est-ce que t'es passé à l'acte? Parce qu'il y a quand même il faut trouver la bonne personne, j'imagine. Ou alors t'as expérimenté tout seul au départ?
À cette époque-là, pour moi, BDSM, ça rimait avec je donne ma personne à quelqu'un. Et en particulier, je donne ma sexualité à quelqu'un. Et donc, ça rimait avec chasteté. Pour moi. C'est-à-dire, je ne peux jouir ou je ne peux éjaculer que quand la personne qui me possède le veut. Et donc pour moi, ça tournait autour d'un objet qui est la cage de chasteté. La cage de chasteté, c'est un petit appareil en métal qui maintient le pénis au repos. Et donc j'ai cherché à me procurer cet objet et à vivre ça avec quelqu'un. En fait, c'est très compliqué, la cage de chasteté, parce qu'il y a plein de modèles et c'est très difficile d'en trouver un qui aille bien. Donc, j'ai acheté plein de cages qui n'allaient pas et donc, j'ai fait des expériences un peu ratées.
T'as commandé sur Internet?
Oui.
Ça se trouve facilement?
Ah oui. Sur Amazon, il y a je ne sais pas combien de possibilités. Mais en fait, si je peux donner un conseil, il faut que ce soit petit, une cage de chasteté. Si vous avez la place d'avoir une demi-érection, ça n'a plus aucun effet, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut que ce soit petit et il faut que ce soit idéalement en métal, parce qu'en plastique, le sexe, il respire pas. Donc ça ne peut pas le garder longtemps.
Parce que le principe de la cage de chasteté, comme toi tu le voyais, il fallait la garder en continu? Ou alors il faut l'enlever le soir avant de se coucher, ou il faut l'enlever pour aller aux toilettes, ou comment ça fonctionne techniquement?
Je l'ai toujours fantasmé comme quelque chose qui se garde en continu. Mais ça, c'est le fantasme. Et la réalisation pratique, c'est pas possible pour des raisons techniques, pour des raisons psychologiques, d'hygiène, mais pas que d'hygiène, pour des raisons psychologiques aussi. Donc, c'est toujours un jeu de la garder longtemps. Mais faut pas être un staganoviste de la cage de chasteté. À un moment donné, on arrête, quoi.
On peut pas la porter si on s'habitue. Ça c'est pas comme un piercing ou autre chose. On peut pas la porter en continu pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans.
Il y a des gens qui le font, hein. Mais moi, j'en suis incapable.
C'est quoi ton record?
Il est pas loin. Hein. Ça doit être une semaine. Il y a des blogs hein, sur Internet de gens qui restent 2 mois, 3 mois.
À ce moment-là, t'étais avec quelqu'un qui participait à cette recherche, à cette découverte, ou tu l'as fait tout seul ce chemin avec la cage de chasteté?
Je l'ai fait avec une femme, Samantha, avec qui j'avais une relation libertine hein, qui a duré pendant 1 an. Et donc, au sein de cette relation libertine et amoureuse d'ailleurs, il y avait de temps en temps des jeux autour de ça.
C'était il y a combien de temps?
C'était il y a 10 ans.
Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as reçu la première cage de chasteté que tu as commandée?
Oh, ça, je me rappelle. Ouais. C'était une cage en plastique. En fait, j'ai dormi avec. Et la nuit, on a des érections mécaniques. Et pendant la nuit, la cage s'est cassée en deux. Je me suis retrouvé le matin avec ma cage cassée en deux. Et avec cette fille qui s'appelait Samantha, après, on s'est séparés. Et elle est partie avec la cage cassée en deux. Et ce que j'ai su, c'est que elle a réutilisé la cage avec son nouveau copain qui a donc, du coup, en plus dû recoller la cage et la réparer.
C'est un délire. C'est bien, elle porteuse d'histoire, c'est un peu comme les alliances, les trucs comme ça. On met du sens dans les objets, c'est parfait. On va faire une petite pause et faire notre premier module basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, mais qui est un peu inversé. Donc basé sur tes pratiques sexuelles, je vais te dire des affirmations et tu vas me répondre si ça te parle, si tu l'as déjà fait, si tu l'as pas fait, si tu en as envie ou pas du tout. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires.
J'ai sodomisé des partenaires, toujours des femmes. Et toujours quand elle le demande.
C'était bien.
Et c'est bien quand elles aiment ça.
Toi, t'aimes ça?
Et moi, j'aime ça. Quand elles aiment ça. Sinon, j'aime pas ça.
Oui, sous la contrainte, c'est pas... J'ai déjà eu des soucis avec du matériel.
Ah oui. J'ai beaucoup de matériel et donc j'ai beaucoup de soucis. Je me rappelle avoir acheté un god vibrant qui permettait d'une part d'être tenu dans le vagin, par le vagin de la femme, et puis d'autre part de pouvoir sodomiser un homme. Et en fait, là, ça avait coûté super cher ce truc, et puis la vendeuse me l'avait très 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 bien vendu. Et quand je suis arrivé avec Lana, ma partenaire actuelle, elle m'a dit « mais non, ça va pas du tout ce truc-là, ça tient pas bien, et puis je me projette pas là-dessus, et souvent le matériel il marche pas parce qu'on n'arrive pas à projeter de la psychologie dessus, c'est ça le problème. »
En fait, il faut être autant excité par son matériel que par les partenaires, quoi.
C'est ça.
On peut imaginer, mais c'est pour ça aussi que les constructeurs prennent un malin plaisir à mettre des paillettes, des couleurs un peu cool, parce que s'il n'y a pas d'amusement, j'imagine, si on est dans le fonctionnel strict, mais les doubles godemichés, en l'occurrence, ça peut être chouette dans le cadre de relations lesbiennes, ça peut être le, il y a plein de cas. Mais c'est technique, il faut dire la vérité. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe.
Alors, je pense pas souvent à ma liste de courses de manière générale. J'ai horreur de faire les courses. Ça m'arrive de penser à toute autre chose que le sexe. D'ailleurs, souvent, les meilleurs rapports sexuels, c'est quand on arrive justement à s'échapper, à penser à quelque chose d'autre que justement ce rapport. À condition que ce soit pas effectivement une liste de courses, que ce soit quelque chose qui soit beau, qui soit esthétique.
Comme, donc, comme quand on sort du corps et on pense à...
Mais c'est ça, en fait, la condition de soumis, c'est une recherche de ce qu'on appelle le subspace, l'espace du soumis, et dans lequel on est dans un ailleurs, quoi.
Il a été analysé, je me permets une parenthèse, que certains types de soumission, en l'occurrence, l'arrivée à trouver ce subspace était équivalent à de la méditation pleine conscience extrêmement forte.
Tout à fait.
Donc tu penses à quoi quand c'est comme ça? C'est très intime de demander ça, mais t'es où dans ton subspace?
Je suis comme dans un nuage. Je suis je sens toujours ma partenaire, donc elle est encore là, j'ai toujours ce lien, mais je vois des couleurs ou bien c'est beaucoup de sensations physiques en fait. C'est basé sur des sensations dont je n'ai pas forcément l'habitude, parce que c'est pas des sensations qui sont liées au pénis ou au bourre, c'est des sensations internes, c'est des sensations avec la prostate, c'est des sensations qui diffusent en fait. Et je dirais le subspace, il continue après le rapport. Moi, ça m'est arrivé encore récemment d'avoir un subspace qui dure peut-être une heure après le rapport, comme une espèce de boule chaude qui continue à diffuser.
Et c'est agréable?
C'est super agréable.
C'est quelque chose que tu recherches? Ou tu es content quand ça arrive, mais tu c'est pas ton obsession?
Disons que quand je me fais sodomiser avec un godemiché, c'est quand même un but. Quelque chose qu'on recherche. J'y pense. Et je guide ma partenaire. Qui y arrive, parce qu'elle commence à bien me connaître.
J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre.
Bien sûr. Alors j'ai aussi une grande vie libertine. Quand on a une vie libertine, en fait, ça arrive de faire l'amour avec une femme qui n'est pas son partenaire. Donc forcément, à ce moment-là, je pense à mon partenaire, qui n'est donc pas la femme avec qui je fais l'amour. Donc, techniquement, je pense bien à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ça me donne beaucoup de plaisir. Je suis beaucoup dans la compersion, beaucoup dans la... Je suis excité par voir ma partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre.
Alors, on va définir rapidement la compersion. C'est une donnée qui a été mise en place par, à l'origine, le groupement polyamoureux américain, enfin d'Amérique du Nord. Et c'est le sentiment qu'on a quand son partenaire ou sa partenaire a du plaisir ou est heureux. Et on est heureux et on a du plaisir pour ce plaisir et ce bonheur qui n'est pas forcément dépendant de nous, en l'occurrence. Donc ça, pour chez les libertins, c'est parfait, parce que du coup, ça explique tout à fait comment on peut être heureux de voir la personne qu'on aime avoir du plaisir avec quelqu'un d'autre. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour.
C'est quoi un endroit pas prévu pour?
C'est une bonne question. Alors, ça peut être... en gros, c'est tout ce qui n'est pas la chambre, quoi. Tout ce qui n'est pas la salle de bain, à la limite, si on veut ouvrir un
pas.
Peu. Du coup, les lieux publics, les...
Non, moi, je pars du principe qu'il faut rester dans la légalité. Donc, j'ai pas à imposer une masturbation à des promeneurs ou des enfants qui passeraient. Et... Voilà, donc, j'ai pas envie d'un point de vue légal et ça me fait pas fantasmer. Voilà.
Donc,
exhiber avec des gens qui sont là pour ça, qui ont envie de ça, bien sûr.
Donc en club, dans des endroits, ouais. Mais pas dans ta voiture.
Dans ma voiture, si on me voit pas dans la voiture, si voilà. Mais là, c'est plus une masturbation pour faire passer un stress de pH qui avance pas, quoi, un truc comme ça.
Et on n'en parle pas assez du stress de pH qui n'avance pas. Mais en vrai, le coup de la masturbation pour le stress, c'est quelque chose qu'on entend dans cette émission depuis le début par des hommes et des femmes. C'est un truc dont on ne dit pas assez, c'est que ça déstresse vraiment. Et que c'est souvent le cas chez des gens qui sont au travail, par exemple, et qui ont besoin de relâcher la pression avant une grosse réunion, quelque chose comme ça. On ne parle pas de pH, mais c'est tout à fait possible, on respecte. J'ai déjà éjaculé.
Ah bah oui, j'ai déjà éjaculé oui. Beaucoup de fois.
C'était pas évident, il faut la poser.
Et je pensais que tu la posais qu'aux femmes, cette question.
Eh ben non, en fait. En fait, ça m'est arrivé, je crois, précédemment, de l'enlever quand j'avais un homme. Et puis on m'a dit, mais pourquoi tu la poses qu'à des femmes? Et je trouve effectivement con de la poser qu'à des femmes, parce que je pense qu'il y a des hommes, en l'occurrence, qui ont du mal à éjaculer ou qui n'éjaculent pas. Donc ouais. C'est pertinent.
Par contre, j'ai déjà joui sans éjaculer. Typiquement avec le Subspace dont je te parlais tout à l'heure.
Donc tu considères que c'est un orgasme?
Oui.
Mais sans éjaculer.
C'est un orgasme différent.
T'as pas de réaction de corps, même réflexe, quand c'est comme ça?
C'est-à-dire une
En fait, on peut imaginer que l'éjaculation arriverait de facto, quoi, de façon...
Non. Typiquement, si c'est quelque chose qui se passe avec une cage de chasteté, il n'y a pas d'éjaculation.
Et ça te fait pas mal?
Mal, pourquoi?
Alors, c'est une question de totalement noob sur la question des cages de chasteté. Quand on est dans une cage de chasteté et qu'on est en érection, ou qu'en tout cas l'érection s'impose ou essaye d'arriver, est-ce qu'il n'y a pas une douleur physique?
Ah non, si la cage est toute petite, il n'y a pas d'érection du
tout. Ça bloque complètement?
Oui, complètement.
Et du coup, il n'y a pas de douleur?
Bah non. Il n'y a pas de sang. D'où l'importance de la prendre courte. Parce que si vous prenez une cage assez longue, vous aurez un début d'érection. Et là, ça va pousser, tirer, tirailler.
Et là, mal. Ça fait mal. Mmh. Okay. Donc le but, c'est pas d'avoir mal, en fait.
Bah non, pas du tout.
Je pense que tout le monde n'est pas au courant de cette question. Donc,
et pour la première fois, là où ça peut faire un peu mal, c'est au niveau de l'anneau qui est derrière les bourses. À force, il peut y avoir une irritation. Donc, il faut mettre de la biafine.
Le petit conseil.
Petit conseil malin.
On aime bien les petits conseils dans cette émission. Alors Olivier, tu es switch. On va définir ce que c'est switch dans le cadre de donc ce qu'on appelle communément le BDSM. C'est une personne qui peut être à la fois dominant et soumis. Et tu as eu une relation avec une femme qu'on appellera Mathilde, où tu as travaillé, tu as développé ce côté-là chez toi. Comment ça, c'était quand?
C'était il y a 2 ans. C'était une femme que j'ai rencontrée sur Tinder et dès le départ, on a posé que j'étais dominant et qu'elle était soumise et c'est comme tu l'as dit, je suis switch, elle était switch aussi. Et on était à fond dans ce qu'on faisait. Alors c'était un BDSM qui était porté beaucoup sur la douleur, sur les coups.
Avec des accessoires.
Avec des accessoires, des cravaches, des chambrières. C'était très prenant, très stimulant, et en même temps, ça m'a complètement bouffé. Et puis il y a un moment donné où on a switché à l'envers. Elle est devenue domina et moi soumis. Et en restant sur la modalité de la un peu sadomaso, ça allait plus du tout. Parce que moi, pour le coup, je suis pas maso du tout.
Donc la douleur, c'était pas possible.
Ouais. Et puis c'était, en fait, on a aussi eu l'erreur d'avoir un BDSM qui dépasse la sphère purement sexuelle. C'est-à-dire qu'on avait un rapport de domination soumission sur plein de choses du quotidien. Et ça, je crois que c'est vraiment une erreur. Parce qu'il y a l'idée de, oh bah tiens, je peux rendre sexuel le fait d'aller faire mes courses, par exemple. Oui, mais ça veut dire aussi que si tu fais mal tes courses, du coup, tu n'es pas considéré comme bon du point de vue sexuel. Ça marche dans les deux sens. Et ça abîme. Et donc...
Je fais une petite coupure, mais il va falloir expliquer aux gens comment on rend sexuel des courses. Parce que là, du coup, ça, j'imagine que c'est lié à la tenue. Tu t'imposes une tenue ou tu demandes à pas mettre de culotte ou tu donnes des petites missions.
Non, c'est... Ça rend sexuel au sens donc tu fais telle corvée, tu as nettoyé l'évier. Si c'est bien fait, t'auras une récompense. Si c'est pas bien fait, t'auras un coup de cravache ou quelque chose comme ça. Donc c'est l'idée de un peu pavlovienne de dire bah tiens t'as une récompense et puis t'as punition pour tout et n'importe quoi.
Et
le problème c'est que ça engendre de l'injustice et que l'injustice est très mal vécue.
Donc ça détruit un peu l'ego.
Ça détruit l'ego. C'est pas bon.
Et c'est toi qui en as souffert?
Bah elle aussi, hein. C'est juste une modalité qui fonctionne pas.
Vous avez expérimenté, vous avez décidé de vous séparer?
Oui, enfin, on s'est pas séparé pour ça. On s'est séparé, on était dans le Shibari aussi à cette époque-là. Je pense qu'à un moment donné où j'ai étouffé, en fait, dans cette relation qui était extrêmement prenante et j'ai eu envie d'aller voir ailleurs, ce qui était tout à fait autorisé, puisque c'était une relation libertine. Par contre, je suis parti avec les cordes de Shibari. Et donc ça, c'était l'objet à pas sortir du couple. Donc à partir de là, ça n'avait plus de sens.
Alors on va définir le shibari, c'est le fait d'attacher son ou sa partenaire avec des codes qui sont des codes anciens, enfin, du Japon ancien, il y a des nœuds particuliers pour atteindre des positions qui sont entre la contrainte, le plaisir sexuel, la performance. Il y a plein d'aspects au shibari tel qu'il est pratiqué aujourd'hui et des endroits même où on apprend à le pratiquer. C'est considéré comme une forme d'art.
Oui, je précise que moi la contrainte brute me suffit, j'ai pas besoin d'art et de faire des belles figures.
D'accord. Alors, on va te dire que pendant ce temps-là, alors que tu étais avec Mathilde et que tu avais cette relation très prenante, tu étais aussi avec Sandrine. Et Sandrine, c'était
Sandrine, c'est ma compagne, c'est ma grande relation vanille qui a duré 13 ans, avec laquelle j'ai eu des enfants. Et effectivement, moi, comme j'avais une sexualité débordante, je m'étais dit à un moment donné, il me faut une relation construite pour fonder une famille qui soit pas tributaire de tous mes délires. Et donc ça, j'avais ça avec Sandrine. Et puis à côté, c'était autorisé, des relations libertines.
Vous étiez en couple libre.
Oui, c'était posé comme ça dès le début.
Je vais définir le terme de vanille. Vanille, c'est toutes les relations sexuelles qui ne sont pas BDSM.
Oui, comme la glace à la vanille, que tout le monde aime bien la glace à la vanille, c'est pas un
vrai. Voilà, où il n'y a pas de domination, de soumission. Ça veut pas dire que c'est chiant, ça veut dire que c'est le classique, en fait, la première chose à laquelle vous pensez quand vous pensez à une relation sexuelle de base. C'est-à-dire que ça peut être très fun, mais en tout cas, il n'y a pas de fouet, de shibari, de contraintes, de cage à pénis.
C'est vrai que j'avais une grande vie libertine, et du coup, qui était très vanille, parce que finalement, en club, en sauna, on fait toujours plus ou moins la même chose. Et donc la 304e levrette ressemble quand même beaucoup à la 303e levrette avec une inconnue.
Avec Sandrine, vous êtes en couple pendant 13 ans. Et avec la question du libertinage, ou en tout cas du fait que tu puisses aller voir ailleurs, à côté, de façon assumée et validée de sa part, ça s'est toujours bien passé ?
Au début, pour la mise en place, il y a eu un petit peu de jalousie avec une partenaire au début. Mais parce que la partenaire voulait prendre la place de Sandrine. Mais après, oui, c'est rentré dans les ordres.
Et j'imagine que vous avez trouvé vos propres règles et vos propres modalités dans cet arrangement, quoi.
Oui.
C'est des choses qui arrivent pas toutes seules.
Oui. Je rentrais à la maison, hein, je découchais pas.
C'est une règle. Et c'est vrai que chacun ses règles. Non, mais c'est ça qui est important quand on met en place ce genre de système qui sort un peu de l'ordinaire, en vrai. Mmh. C'est qu'on trouve des règles qui conviennent à tout le monde et qui montrent qu'on s'aime encore, qu'on se respecte encore. C'est très important. Cette relation avec Sandrine, qui a duré plus d'une dizaine d'années et qui a donné lieu à des naissances d'enfants, n'a pas duré. En fait, elle s'est arrêtée l'été dernier.
Oui, on n'avait plus de vie sexuelle et puis on était devenus des amis. On s'entend bien, on s'entend toujours très bien. On élève les enfants ensemble, ça se passe très bien. Mais aussi bien elle que moi, on avait envie de construire autre chose avec d'autres personnes.
Et l'été dernier, une rencontre avec Lana.
Oui.
Alors, comment tu définis votre relation ?
Ma relation avec Lana, c'est une relation qui part dans plusieurs axes, c'est une relation en fait de découverte sexuelle. Alors Lana est beaucoup plus jeune que moi, elle a 18 ans de moins que moi, mais on est tous les deux, on partage la même envie de découvrir plein de champs sexuels ensemble.
Tu l'as rencontrée où ?
Elle m'a été présentée par un ami qui la connaissait et qui me l'a présenté officiellement pour que je l'aide de manière professionnelle. En pratique, il veut me la mettre dans les pattes. Et je le soupçonne d'avoir eu comme idée que, à mon tour, plus tard, je lui en mettrai une dans ses pattes. Voilà. Espèce d'échange commercial.
Mais non dit.
Ce qui est presque dit, d'ailleurs. Et donc, j'avais, pendant 6 mois, remis à plus tard. Non, je joue pas de ce pain-là. Surtout, que Lana, moi, je la connaissais pas, et cet ami, il avait l'habitude d'aller voir des escortes et des femmes. Donc je me dis, si elle est comme les autres, moi ça m'intéresse pas, leur rapport tarifé, c'est pas mon truc.
Tu savais pas du tout, oui, quel type de personne c'était, à quoi
pas
elle ressemblait.
Pas du tout.
D'accord.
Et elle était pas du tout une escorte.
Quand vous vous êtes rencontrés, il a été clair tout de suite qu'elle serait ta domina ?
Non, pas du tout. C'est arrivé par jeu, on fréquentait dès le début les saunas libertins. Et un jour, on a eu un jeu, ça a été ce qu'on a appelé le concours de zombies. Alors, les zombies, c'est ce qu'on appelle, c'est les hommes seuls dans les saunas libertins. Et ils marchent comme des âmes en peine avec les bras devant eux. Ils espèrent un espoir, souvent déçu, de pouvoir toucher un téton ou une fesse. Et dans un sauna qui est très mal fréquenté, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes seuls. Et du coup, il y en avait tellement et on était le seul couple. On s'est dit, on va organiser un concours de zombies. On va faire une compétition entre eux pour choisir celui qui pourra faire l'amour avec Lana. Et donc, c'est parti là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a lancé des épreuves.
Dans un mode de jeu.
Dans un mode de jeu où au début, il y avait 4 zombies. Il devait la caresser. Elle en a éliminé un. 3 autres, il devait l'embrasser. Elle en a éliminé un. Ce qui restait, il devait lui faire un cunnilingus. Et le gagnant avait le droit de lui faire l'amour. Donc c'était très rigolo de, mais moi j'étais en dessous quelque part.
Parce que qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là justement?
Moi voilà, moi je tenais le chronomètre parce qu'ils avaient tous 2 minutes 30 pour leur exploit à chaque épreuve. Voilà.
Donc t'étais à côté, tu regardais?
Ouais, moi j'étais juste à côté, je regardais et je me délectais du spectacle et j'essayais de deviner qui allait gagner le concours.
D'accord.
Voilà.
Et ça a mis en place, on va dire, une forme de pouvoir entre vous,
c'est ça.
Ouais. Vous avez fini par en parler, vous avez débriefé ce moment-là en disant,
c'était super, surtout que après elle avait attaché avec un collier, avec une laisse, elle mettrait tout le sauna comme ça, donc avec des hommes seuls qui eux comprenaient rien du tout parce qu'ils ont peut-être qu'ils écoutent pas Slate, je sais pas, mais ils sont pas le niveau culturel qui va bien.
Non, il faut dire, c'est vrai que dans les clubs libertins et les saunas c'est très vanille. Hein,
c'est très vanille, donc ils comprenaient pas ce qu'on faisait en fait, et ils étaient tous un peu morts de faim. Et donc nous on s'est beaucoup amusé de ça.
Et c'était quand ça dans votre relation? C'était
au début.
Tout début. C'était pas le premier rendez-vous?
Non, peut-être au bout d'un mois. Enfin, c'est au début.
Au début, vous avez fait du sexe vanille ou pas du tout?
Non, en fait, la première fois qu'on a fait l'amour, c'était un sauna libertin. C'était un rendez-vous là-bas.
Donc c'était tout de suite dans un cadre de libertinage?
Ouais, tout à fait.
Comment tu définis aujourd'hui votre relation? Vous êtes en couple?
Oui.
Et vous avez...
Un vrai couple.
Parce que du coup, j'allais te demander par rapport à ta relation précédente avec Sandrine, où tu avais décidé que il fallait qu'il y ait ta vie vanille avec les enfants, le couple et ainsi de suite, et à côté ta vie BDSM et libertine. Est-ce que là, du coup, t'as changé d'avis sur la question?
Oui.
Tu penses qu'on peut mélanger les deux?
Ah bah avec elle, oui, je mélange tout. Après, j'ai pas forcément envie de refaire des enfants tout de suite.
Non, mais sans forcément en arriver aux enfants.
Mais oui, c'est la femme du quotidien, et puis c'est la femme de l'exploration sexuelle, ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi.
Ouais.
Comment ça se définit? Est-ce que vous mettez des moments dans la journée ou dans la semaine où vous pratiquez pour justement éviter les dérives qu'il y a pu y avoir avec Mathilde?
Oui, on pratique généralement le soir. Après, on a des petits rituels. On a ce qu'on appelle l'offrande. L'offrande, c'est quand elle rentre du travail. Ben moi, j'ai bien rangé notre lieu de vie et je suis nu à quatre pattes. Et elle arrive et elle inspecte tout. Et puis, c'est ce moment de retrouvailles qui est important. Entre nous.
Et ça, c'est quotidien?
Quasiment quotidien, on le fait, je sais pas qu'on peut le faire.
On peut dire que vous pratiquez le BDSM de façon H24 ou pas du tout?
Pas du tout.
Alors, je vais le définir aussi, c'est quelque chose que certaines personnes font. En l'occurrence, c'est quand on a son rôle de soumis et de dominant vraiment tout le temps. Et c'est très codifié. Non, toi, c'est
non, parce qu'en fait, le BDSM, c'est que une des branches de nos vies sexuelles à nous. Donc, ça te branche.
Vous faites aussi du sexe vanille?
On fait du sexe vanille, on fait du libertinage, on fait plein d'explorations. C'est pas le tronc de ma vie sexuelle, c'est une branche. Et la sienne aussi.
Vous en discutez?
Ouais, à en discuter. Alors elle est vraiment domina, elle est vraiment du côté de la domination, elle est pas du tout switch, et pour moi c'est très reposant parce que du coup je sais qu'elle veut toujours ça, la domination. Elle est pas tentée d'un coup qu'on inverse les rôles. Donc je peux vraiment me poser dans mon rôle de soumis.
T'as un rôle très défini.
Ouais.
Ça va pas te manquer ou ça te manque pas pour l'instant?
Quoi donc?
D'être dominant?
Non, pour l'instant ça me manque pas. Je pense que je suis plus soumis que dominant. En tout cas, je trouve mon plaisir comme ça.
C'est l'heure du deuxième module, on va parler des œuvres qui ont accompagné ou construit ton imaginaire sexuel. Je vais te donner encore une fois des affirmations et tu vas me dire ça t'évoque quelque chose. Le livre qui m'excite.
Le livre qui m'a excité, c'était Histoire d'eau, hein, de Pauline Réage. Je me rappelle l'avoir lu, d'avoir 18-19 ans. On était aux États-Unis sur les grandes autoroutes américaines et on était à 6 ou 7 dans la voiture. Et moi, j'étais là avec toute la famille. Et dans mon coin, je lisais Histoire d'eau.
Ambiance particulière.
Ambiance particulière. Ce que j'aimais dans ce livre, c'est tous les jeux psychologiques qui jouent. Je pense que c'est un livre qu'on peut pas vraiment finir parce qu'à un moment donné, on dit c'est trop pour moi, mais c'est pas grave, c'est ok. On en lit 30 pages, 40 pages, 50 pages, on arrive, ok, c'est de pire en pire. Il y a un moment donné où là, ça, Ça dépasse mon niveau. Mais je suis content d'avoir lu les premières pages.
Oui, bah, je me permets une parenthèse. C'est vrai que la fin du livre et ce que ça évoque en termes de, d'absolu dans la donation de soi est quand même très extrême. Et ça ne correspond pas à un idéal dans le BDSM pour personne. D'ailleurs, parce que le consentement n'est pas des masses respectées. La relation n'est pas super équilibrée. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas. Par contre, ce qu'il faut le voir, c'est aussi comme une lettre d'amour. Ouais. C'est un livre qui a été écrit comme une lettre d'amour et du coup c'est pour ça que c'est excessif parce que c'est un amour excessif et quand on aime aussi fort, même de façon vanille, on peut comprendre qu'on ait envie de se donner de façon absolue, aussi forte, aussi éternelle, parce que du coup c'est des gestes qui vont durer toute la vie. C'est un très beau livre, je suis d'accord. Il faut ne pas y plaquer des codes d'aujourd'hui et il faut le voir aussi comme une métaphore, je pense, sur ça, c'est un truc. Mais sur la domination stricte, c'est vrai que le début est assez excitant. Le film qui me fait vibrer...
Je dirais L'insoupçonnable légèreté de l'être, tiré du livre éponyme de Kundera. Pourquoi ? Parce que je me suis bien identifié à Thomas, qui est tout le temps en train de basculer entre le désir de découverte avec Sabina, et au contraire, se poser avec Teresa. Et moi, ça ressemble bien à ma vie telle que j'ai eue pendant 13 ans. Voilà. Et c'est un film que j'ai vu, j'étais ado. Et je crois que j'ai vraiment vécu ça et je continue à le vivre, toujours à être en balance entre la découverte et se poser.
C'est drôle parce que du coup, c'est des œuvres que t'as consommées très tôt et qui ont marqué ta vie d'adulte.
C'est vrai.
Dans quelle mesure tu penses que ça t'a marqué, ça t'a poussé sur des chemins, ou au contraire que c'est peut-être le destin qui les ont mis sur ta route ?
Non, je crois pas du tout au destin. Je crois que j'avais un intérêt pour ces choses-là à cette époque-là. C'est pas le hasard. Histoire d'eau, on vous assure qu'à cette époque-là, je t'assure, on le trouvait pas n'importe où. Enfin, j'avais cherché où, à Paris, on le trouvait dans quelle bibliothèque. C'était pas courant. Donc j'ai vraiment fait une recherche. La soutenable légèreté de l'être, c'était plus le hasard. Mais je crois pas trop au destin, en fait. Je crois qu'à un moment donné, on est éveillé par quelque chose, on a envie de creuser. Voilà.
L'image qui me donne des frissons de plaisir.
Eh ben, c'est l'image de Lana. Il y a deux images. Il y a été voir un photographe érotique. On a fait des clichés magnifiques en faisant l'amour devant le photographe. Des clichés en noir et blanc, superbes. Et donc, on a une photo comme ça de nous, en position vanille, pour le coup, très vanille, mais qu'on a mis au-dessus de notre lit. Et voilà, c'est très beau pour s'endormir le soir. Et j'ai une autre image, toujours une photo de Lana sur un balcon qui domine la ville. En fait, elle a enlevé sa culotte et on voit ses fesses et c'est magnifique.
On sent que tu es constant dans tes goûts sur les parties du corps féminin qui t'intéressent. La musique qui te met le mieux dans l'ambiance.
Bah donc logiquement, pourvu qu'elle soit douce, hein, de Mian Farmer, le collectionneur de rondeurs.
On est dans la cohérence, mais c'est parfait quand c'est comme ça. On aime bien quand c'est foisonnant, mais quand c'est cohérent, ça fait plaisir aussi. Hein. C'est bien beau. En fait, on voit qu'il y a effectivement pas de hasard et tout se répond. Le parfum qui réveille tes sens.
Pour moi, le parfum, ça, c'est toujours une évocation du passé. Un parfum, ça rappelle quelque chose. Ah, j'ai déjà senti ça, ça m'évoque autre chose. Et en particulier, je pense au parfum, au Cool Water de Davidoff, qui est ma première petite copine avec qui j'ai fait des bisous, qui portait ça. Donc, ce parfum-là, il me rappelle ça. Voilà.
Et tu le sens encore dans la vie ou
Non, parce que c'est un parfum qui est très peu produit, mais bah, j'en avais acheté des litres de parfum que je ne mets plus. Donc, du coup, j'ai chez moi des litres de Davidoff.
Ah oui, donc tu te souviens quoi? Tu te souviens quelle odeur il a et tout,
ouais. Ouais.
C'était quand la dernière fois ?
Hier soir, Lana a fêté son anniversaire, elle avait 25 ans. Et pour l'occasion, j'ai essayé de faire quelque chose d'extraordinaire pour elle. J'ai réservé un appartement tout en haut d'un immeuble très très haut qui domine complètement la ville et qui était doté d'un grand jacuzzi avec un lit immense. Dans cet espace de rêve, j'ai invité notre couple d'amis avec qui on libertine le mieux. Et tout ça en surprise. Voilà. Et en fait, la soirée aurait pu commencer avec un gros handicap, c'est que le couple n'était pas très en forme sexuellement, et surtout Lana, elle avait un problème de gastro, tout simplement.
Ça arrive.
Ça arrive. Et donc on peut imaginer des choses extraordinaires, et puis finalement, les réalités terrestres font que ça marcherait pas si bien. Et en fait, on était tellement dans l'ambiance, on était tellement heureux de se retrouver, que je crois que le cerveau a réussi à couper complètement la gastro avec une parenthèse pendant
c'est revenu
pendant
après.
Et c'est revenu après, mais dans les grandes largeurs. Et voilà. Et c'était un moment de complicité extrême, extrêmement beau.
C'était vanille ?
Très vanille et très libertin. Et très compersion. Moi, j'ai vraiment pris mon pied en la regardant faire l'amour avec cet homme. Et d'ailleurs, la femme qui était, elle me faisait la fellation, me dit « Ah, vraiment, quand tu regardes ta copine, je le sens dans ma bouche que vraiment, ça marche beaucoup mieux.
» cette réflexion de libertin, mais genre vraiment, c'est super beau en vrai, c'est super beau. On sent elle a l'air très sympathique, cette femme. Alors là, du coup, on a sur une soirée vanille idéale, j'imagine, avec champagne, avec la vue sur la ville. Bon, la gastro, ça restera pas dans l'histoire. Au final, vous aurez gardé cette idée d'anniversaire quand même, qui était un bel anniversaire. Mais avant qu'on se rencontre, tu m'as parlé de la Saint-Valentin et de ce que vous avez prévu pour la Saint-Valentin.
En fait, on s'était dit, bon, puisqu'on veut expérimenter de la chasteté, la Saint-Valentin, c'est le 14 février, on va faire un mois de chasteté. Donc, du 14 janvier au 14 février, sous cage. Et donc, on a essayé. Les deux premiers jours, il y a eu les problèmes techniques, je dirais, de douleur au niveau des testicules. Mais ça a été résolu. Après, il y a eu deux jours fantastiques, très beaux, sensations de bien-être, d'appartenance extraordinaire. Et puis après, ça a commencé à toucher mon moral. Et ça, je ne l'avais pas prévu. Et au bout de 5-6 jours, j'ai commencé à me sentir fragile. La moindre contrariété me faisait battre triper. Tant et si bien qu'au bout de 5-6 jours, il a fallu arrêter ça. Ça ne marchait pas. Bon. Du coup, on s'est dit, bon, mais cette façon de pratiquer le BDSM était trop absolue pour nous, quoi, bien pour nos fantasmes, mais trop absolue. Et donc, on a fait d'autres choses. On a inventé d'autres choses.
Vous avez fait un calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin.
Oui, en grosso modo.
Vous avez fait quoi, du coup?
On a acheté plein d'accessoires qu'on a beaucoup utilisés. On a inventé la litière, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire se mettre à quatre pattes et attendre tous les soirs. On a fait beaucoup de sodomie.
Sur toi?
Sur moi. Oui, tout à fait.
Avec des accessoires, donc avec des godes.
Ouais. On a essayé aussi, je lui ai fait l'amour, mais où c'est moi qui porte le god pour la ceinture et je ne la pénètre pas avec mon sexe. Et c'était très intéressant comme sensation.
Alors, je vais te poser une question très technique, mais tu tenais le god ou tu avais un god ceinture?
Non, je le tenais.
Tu le tenais, d'accord.
Parce que non, pardon, excuse-moi.
Tu me dis, sur un god ceinture, ça doit faire mal et ça doit te comprimer si tu portes un god ceinture toi-même.
Non, mais comme pour une femme, je le portais. Tu peux juste, oui.
Okay.
Je le portais. Et comme j'avais la cage chasteté, mon sexe gênait pas.
Gênait pas. Et c'était intéressant.
Et c'était intéressant parce que je sentais vraiment cette sensation. Indépendamment de mon pénis, quoi. Voilà.
Est-ce que ça permet de se concentrer plus sur l'action?
Exactement.
Quand on n'est pas focus sur son érection.
Parce qu'il y a quand même quelque chose que je retiens de cette semaine à Soukage, c'est que la pénétration vaginale, elle avait une place beaucoup plus centrale avant que maintenant, dans notre relation en tout cas. Je l'aime toujours, mais elle n'est plus centrale. C'est plus l'alpha et l'oméga de toute chose.
Ça peut revenir, tu crois? Ou c'est quelque chose où maintenant, ça y est, t'as passé un cap et tu te dis, en fait, il y a tellement de trucs à faire que...
Moi, avec elle, il y a tellement de trucs à faire qu'on expérimente.
Qu'est-ce que vous avez fait le soir de la Saint-Valentin à l'issue de tout ça?
Alors,
vous avez tenu le mois de chasteté?
Pas du tout. On a tenu une semaine, pas du tout. Alors, on a un peu culpabilisé de ne pas avoir tenu, mais on a essayé, mais on n'a pas du tout tenu. En fait, j'ai réservé une suite dans l'hôtel où on s'était rencontrés au tout début, un hôtel très classe, qui a une vue sur une grande place. Et c'est magnifique. Et donc, on a passé une soirée à faire des photos, à faire de la vanille.
À quel pourcentage tu évaluerais la place du BDSM dans vos rapports sexuels?
35%.
C'est quelque chose dont tu as envie qu'il se développe plus ou ça te suffit?
En fait, parallèlement à ça, on a beaucoup développé notre relation libertine aussi. On va sur Wild, trouver d'autres couples qui, pour le coup, ne sont pas spécialement BDSM. Et ça a une place à peu près équivalente au BDSM. Donc, on a trouvé un équilibre en disant, il faut un tiers de libertinage, un tiers de BDSM, un tiers de vanille. Voilà, cornet à trois boules.
Quel est ton fantasme pour la suite? Quel est le truc le plus dingue que tu voudrais faire en BDSM? Parce que pour l'instant, du coup, tu as tenu une semaine de cage. Est-ce que toi, ton objectif personnel en tant que soumis, c'est de passer le cap des deux semaines, un mois? Ou est-ce que tu as d'autres envies particulières?
Non, j'avoue que sur la chasteté, en ce moment, on l'a mise un peu en parenthèse. Parce que quand on a un seul fantasme et qu'on l'épuise, après, le temps qui se régénère, il faut du temps.
Bien sûr.
Donc aujourd'hui, ce serait artificiel de rêver de ça. J'ai pas des rêves grandiloquents en ce moment, c'est juste on est bien comme ça.
Et vous profitez.
Ouais. Là, en ce moment, elle rencontre un homme qui est un dominant pour le coup, qui a une soumise. Et je sais qu'elle m'organise pour, dans un mois, une rencontre où les deux dominants s'occuperont des deux soumis et je devrais faire je sais pas quoi. Ce sera la surprise avec la soumise à côté.
T'as déjà une expérience avec un homme dominant?
Non.
J'ai
pas d'expérience. J'aurais pu, parce qu'en fait, il y a trois semaines, on cherchait sur FetLife des événements.
Qui est le réseau social du BDSM.
On cherchait un lieu et on a trouvé. Alors, on s'était vraiment impressionné. En plus, c'était le 14 janvier. On va commencer la semaine du mois dans ce lieu-là. Et donc, voilà, j'étais très affairé. J'étais habillé très sexy. Moi, j'avais ma cage. On y va. Et on arrive dans cet endroit-là qui était au mieux de nulle part. On arrive. On ouvre la porte et là on s'est cru dans la cage aux folles quoi avec Michel Serrault quoi et on s'est dit, mais c'est pas du tout notre ambiance ça.
C'était un lieu BDSM.
C'était un non plutôt un lieu de trans mais qui organisait des soirées
thématiques
et on s'est pas du tout retrouvé là dedans à tel point qu'en fait on a tourné les talons tout de suite et on n'est pas revenu.
Bah comme quoi on n'est pas fait pour aller partout et qu'il y a pas de clichés. C'est pas
on n'est pas très multi mais en général on n'est pas multi, on n'est pas gangbang, on n'est pas grand groupe quoi.
Ça, voilà, ça arrive. Non mais ça se comprend. En fait, c'est un truc qu'il faut dire aussi, c'est que quand on expérimente comme ça, il faut aussi définir ses limites. Alors au début, on parle de limites dures et de limites plus molles, qui sont des limites, limites dures, celles qu'on ne passera jamais, qui sont des limites presque morales, et les limites où on se dit oh j'ai pas trop envie, mais peut-être dans un contexte où je suis très excitée, je le ferai. Et en fait, on se rend compte que ouais, bah il faut d'abord se définir. Et on arrive avec cette étiquette qui est toujours très galvaudée de BDSM, en se disant « je suis ça ». Et puis il faut aller expérimenter, essayer, trouver ses limites, trouver ses goûts, parce que encore une fois, quand on a parlé de cette interview tous les deux, tu m'as défini à juste titre le fait que dans le BDSM, il y avait quand même énormément de choses, énormément de pratiques, que ça peut aller de l'humiliation à la violence, à la contrainte, à beaucoup d'autres choses, que en l'occurrence le BDSM que vous pratiquez n'est pas dans la violence.
Non, il y a beaucoup
avec
d'amour.
Avec Lana.
Ça n'aurait pas de sens sans amour pour nous.
Mais je trouve, de ce que je sais du BDSM et de ce que je connais du BDSM, il y a souvent de l'amour en fait. Mmh. Il faut de la confiance, il faut le respect du consentement, il faut de l'amour pour un beau BDSM de puriste. Non mais je pense qu'il faut c'est justement la question de la violence, elle est pas juste physique, la violence psychologique, la violence c'est des choses qu'on peut pas valider et bien je sûr. Pense qu'il y a très peu de gens qui pratiquent le BDSM qui valideraient une chose pareille, de vraiment la violence pure. C'est quoi la suite? Vous avez des rendez-vous prévus pour les prochains jours, les prochaines semaines?
Dans l'immédiat, on n'a pas de rendez-vous. On va déjà se poser là.
Soigner un peu.
Soigner et puis prendre le temps d'écrire parce que en fait, Lana est une écrivaine et elle raconte sa vie sexuelle depuis le début en fait. Donc elle publie des livres sur Amazon. Ça s'appelle Lana et les hommes. Et donc le tome 1, c'était sa vie avant moi, au tome 2, c'était nos débuts, et puis le tome 3, on va continuer, etc. Et elle m'a fait un cadeau magnifique de m'offrir ce livre très bien rédigé, avec tout son ressenti de tout ce qui s'est passé. Et moi, j'ai envie que la collection de livres continue.
Mais bien sûr. Moi, je suis pour la construction. Je trouve que dans un couple, l'intérêt du couple, le seul intérêt du couple, c'est construire et écrire quelque chose ensemble, écrire une œuvre ensemble à partir de sexe, qui est quelque chose qu'on dévalue vachement, en fait, de sexe et d'amour. C'est juste magnifique. C'est un très beau cadeau qu'elle t'a fait d'écrire une œuvre sur vous, sur toi, mais je pense que tu lui fais aussi le beau cadeau d'être un inspirateur pour cette œuvre. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ta vie sexuelle, du début. À la fin, mais qui est pas vraiment la fin, hein, qui est quasiment un commencement.
Non, c'est sûr. Et puis le message, c'est expérimenter, découvrez. Vous mettez pas des barrières. Si vous allez pas voir ce qu'il y a derrière, vous saurez pas.
Soyez curieux. Ça, c'est une belle conclusion. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire ou à en parler autour de vous. Tous les autres épisodes de Première et Dernière Fois sont à retrouver sur slate.fr et votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi y retrouver mes autres podcasts, C'est compliqué et Lieu du sexe. Si vous désirez témoigner dans Première et Dernière Fois, vous pouvez envoyer un email à l'adresse premièredernièrefois@slate.fr. Merci à Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.